Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, merci Samuel Bernard, Mélanie Chalandon, Corentin Mansoir, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. Deuxième temps de notre série consacrée aux enfants sans danger. Hier, nous parlions des enfants de Daesh, la génération perdue de Syrie, d'Irak et d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est la question de la pédophilie et de l'Église catholique qui va nous occuper. Violence sexuelle, l'Église au tribunal des hommes. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Notre travail nous a amenés à reconnaître une fois de plus que l'ampleur du fléau des abus sexuels sur mineurs est malheureusement un phénomène historiquement répandu dans toutes les cultures et toutes les sociétés. Il est devenu seulement en des temps relativement récents un objet d'étude systématique grâce au changement de sensibilité de l'opinion publique sur un problème considéré comme tabou dans le passé, ce qui signifie que tous connaissaient sa présence mais que personne n'en parlait.
Depuis quelques années, depuis l'Allemagne jusqu'aux États-Unis, en passant par la France, le Chili ou encore l'Irlande, partout dans le monde, les scandales de pédophilie ne se comptent plus et l'institution ecclésiale apparaît irrémédiablement salie et déconsidérée aux yeux des fidèles comme des non-croyants. Il y a 15 jours, à l'appel du pape François qu'on entendait à l'instant, un grand sommet consacré à la pédophilie a rassemblé à Rome 200 évêques et cardinaux venus du monde entier. 4 jours de rencontres pour montrer à tous que l'Église fait droit désormais à la parole des victimes, qu'elle a pris la mesure des abus commis en son sein et surtout qu'elle est déterminée à changer les pratiques coupables, celles de crimes sexuels et surtout celles des hiérarchies qui ont préféré se taire pour protéger l'institution au lieu de protéger les enfants qui leur étaient confiés. Alors quelle confiance accorder à ces promesses de révolution? L'Église et le pape François ont-ils vraiment identifié les causes profondes de ces violences sexuelles à répétition? Existe-t-il aussi une spécificité de la pédophilie en contexte ecclésial? Ou peut-on exporter des politiques préventives du contexte civil au contexte religieux et vice-versa? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord, Amal Hachet, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes psychologue clinicienne, maîtresse de conférences en psychopathologie clinique et criminologique à l'Université de Poitiers.
Oui.
Auteur d'un certain nombre d'ouvrages, notamment Le psychologue en contexte judiciaire, quels enjeux éthiques, mais aussi nouvelle figure de l'acte criminel, de monstrueux, du monstrueux au familier, qui était paru aux éditions In Press. À nos côtés également, Isabelle de Golemin, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes rédactrice en chef de La Croix et puis auteur, vous, d'un ouvrage qui était paru au Seuil en 2016, Histoire d'un silence, dans lequel vous le revenez sur cette affaire Prena, ce prêtre lyonnais accusé d'abus sexuels sur une centaine de garçons dans les années 70-80, couvert par le cardinal Barbarin, que vous aviez pourtant informé en 2004-2005, je crois, hein, c'est cela.
Oui, c'est ça. Je dirais pas couvert, parce que les abus se sont passés bien avant que le cardinal Barbarin arrive. Après, il n'a rien fait, mais voilà, c'est pas de couverture.
On y reviendra peut-être. D'abord, Isabelle de Gomelin, on va commencer avec vous sur ce sommet du Vatican, fin février, il y a quelques jours donc, ce sommet contre la pédophilie. Vous étiez à Rome, vous avez donc eu un peu la possibilité de sentir un petit peu l'atmosphère qui s'y jouait, et peut-être on pourrait faire un bilan ensemble de tout cela. Est-ce que vous diriez que ce sommet est de nature, aujourd'hui, Isabelle de Golemin, a enclenché cette fameuse révolution copernicienne, pour reprendre la formule du président de la conférence des évêques australiens?
Ah, ça fait partie en tout cas, parce que ce qui est important, c'est que c'est la première fois que le pape réunissait l'ensemble des évêques, des présidents, des patrons des évêques de chaque pays. Donc tous les pays catholiques étaient là, et c'est très important parce qu'effectivement il y a un certain nombre de pays où on dit encore, y compris en Europe d'ailleurs, hein, en Espagne ou en Italie, où on dit encore non mais la pédophilie c'est pas chez nous. On a longtemps dit ça en France aussi. Hein. Donc il y a des gens qui sont pas du tout encore sensibilisés à ce problème-là. Et là je crois que c'était très important qu'il y ait des évêques donc de tous les pays d'Europe, mais aussi d'Asie, mais aussi d'Afrique, mais aussi d'Amérique, d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, pour entendre la même chose et se mettre d'accord sur la même chose. Donc ça, je pense que c'est ce premier point important. Et puis, ils ont entendu des victimes. Paradoxalement, ça peut paraître fou, mais l'Église a mis beaucoup de temps à accepter d'entendre des victimes. Hein. C'est Benoît XVI, le premier qui l'a fait. Jean-Paul II a toujours refusé, en estimant qu'il allait se faire piéger, etc. Et là, tous les évêques devaient venir en ayant entendu des victimes chez eux. Et surtout, ils en ont entendu ensemble avec des témoignages assez forts. Donc ça, je pense que c'est de nature à faire quand même bouger un peu les choses.
Et c'est vraiment une des choses qui ressort là sur ce sommet, c'est effectivement cette parole des victimes qu'on a enfin entendue. Mais s'agissant des mesures, en ouverture du sommet, le pape François avait évoqué des mesures concrètes et efficaces. Sauf que ces mesures, on les a toujours pas vues. Alors on nous dit qu'il y a un texte qui devrait sortir d'ici quelques semaines, mais pour l'instant on n'a toujours rien. Ça c'est un peu le gros manque.
Oui, en fait, c'est vrai que le dernier discours du pape a pas mal déçu parce que finalement, comme il a remis ça dans un contexte plus global, on a eu l'impression qu'il relativisait, qu'il disait bah oui, ça existe dans l'Église, mais ça existe ailleurs. Ce qui est vrai, mais c'est vrai qu'il y a une responsabilité propre de l'Église et sans doute un système ecclésial qui effectivement peut favoriser ce genre de comportement. Donc ça a pas mal déçu. Donc après, le père Lombardi, qui était le porte-parole un peu du Vatican sur ce sommet, a dit si, il y a des mesures qui vont arriver, des mesures concrètes. Donc il a énuméré un certain nombre de mesures de type juridique. Il y a déjà eu beaucoup de mesures qui ont été prises quand même. C'est-à-dire que au niveau du droit, il me semble que la raquette est à peu près aujourd'hui couverte. Enfin, il faut vraiment qu'un évêque soit de mauvaise volonté pour qu'il ignore ce qu'il faut faire aujourd'hui dans son pays. Mmh, voilà. Mmh. Après, le problème, je pense que c'est moins au niveau des mesures
que la mise en application.
Des mentalités, les mentalités de l'évêque qui accepte de se remettre en cause, mentalité des catholiques aussi. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus, qui critiquent le prêtre, qui peuvent faire un signalement, qui peuvent essayer de signaler à la hiérarchie ce qui se passe mal. Et là, on a encore beaucoup de chemin à faire. C'est-à-dire qu'il y a quand même un comportement catholique aujourd'hui qui est, on peut dire ça, clérical. C'est-à-dire qu'on estime qu'on ne remet jamais en cause le prêtre.
Le dispositif est là, vous dites, Isabelle de Golemin, mais en revanche, ce qui a peut-être aussi manqué dans ce sommet, c'est précisément cette question de la responsabilité morale et aussi pénale des évêques qui ont couvert les prêtres pédophiles. Peut-être qu'on attendait ça aussi de la part de
alors,
François.
Ça existe parce qu'il y a quand même, je crois qu'il y a sous réserve une trentaine d'évêques qui ont été sanctionnés aujourd'hui, et on voit que quand le Vatican veut aller vite, ça peut aller vite sur des évêques.
Vous pensez à quoi ? Vous pensez à quel ?
Tout ce qui s'est passé aux États-Unis quand même.
Et puis le cardinal américain Theodore McCarrick
qui en plus lui-même est coupable,
réduit à l'état laïque,
mais qui a protégé, et puis au Chili aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui, alors on a beaucoup parlé d'une autorité qui serait à Rome pour juger tous les évêques, et puis le pape a jugé, alors c'est ça peut-être qu'on peut contester, que ça serait vraiment un peu une espèce d'énorme machine trop compliquée à mettre en œuvre et qui risquait de ralentir les choses.
Vous parlez du fameux tribunal,
tribunal
pour les responsables religieux qui avait été envisagé à un moment.
Voilà, un tribunal pour les évêques, parce qu'effectivement le problème c'est que comme le pape nomme les évêques, on se dit qu'il faudrait qu'il y ait une autre structure qui puisse les déjuger, puis qui puisse dire quand ça va pas. Mmh. Alors là, on s'achemine vers quelque chose qui serait proche de tribunaux régionaux, voilà. Qui permettrait de juger les évêques au niveau, par exemple, d'un continent ou d'un semi-continent. C'est effectivement un des problèmes.
Mais donc des justices ad hoc à côté des justices nationales.
Oui, parce qu'en fait, le souci, c'est que chaque évêque, en fait, depuis Vatican II, ce qui est un peu compliqué à comprendre, depuis Vatican II, on a donné beaucoup de pouvoir aux évêques, en disant, bah voilà, dans le diocèse, l'évêque, c'est lui qui est le pasteur, qui est le père de tout le monde, etc. Et il n'y a pas d'instance de régulation à côté de cet évêque. Voilà. Mmh. Donc, la complexité, on voit bien en France, quand la conférence épiscopale de France dit au niveau national, dès que vous avez un problème, vous signalez, elle n'est pas sûre d'être obéie par tous les évêques. Puisqu'il y a des évêques qui, aujourd'hui, font ce qu'ils veulent parce qu'ils ne dépendent pas de cette conférence épiscopale, ils ne dépendent que du pape. Mmh. Donc effectivement, ce qui manque, c'est d'un mécanisme de régulation qui permettrait de mettre en cause un évêque. Mais on voit que quand il y a un signalement à Rome, aujourd'hui, ça se fait lentement. C'est pour ça que je pense que il me semble qu'on est plus dans un problème de culture aujourd'hui, et donc ça va être très long. C'est bien qu'il y ait des lois et c'est bien d'en faire, et il va y avoir une espèce de vademecum qui va dire à tous les évêques voilà ce qu'il faut faire quand vous avez un prêtre, etc. Mais je pense que là où ça va être beaucoup plus long, c'est d'arriver à sortir de ce système de hiérarchie ecclésiale qui fait que on n'ose pas remettre en cause cette hiérarchie.
Mmh. Je le disais le mois dernier, donc ce cardinal américain accusé d'agression sexuelle a été réduit à l'état de laïc. C'était une première. Est-ce qu'il faut y voir le signe que le pape François est peut-être plus déterminé dans la lutte contre la pédophilie que ses prédécesseurs?
Je crois qu'il n'y a pas le choix. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est jamais venu de l'Église, hein, c'est venu des victimes. C'est-à-dire que le pape François, il a fait un voyage catastrophique au Chili, où il a absolument pas voulu remettre en cause les évêques. C'était un problème d'ailleurs. Les évêques lui ont dit mais non, il y a très Saint-Père, il y a aucun souci, ce prêtre-là n'est pas coupable. Et finalement, ce sont les victimes, à force de protester avec les journaux, etc., qui ont permis de changer. Donc je pense que là, le pape François, il a absolument pas le choix. Et ça, c'est quand même quelque chose que l'Église commence à comprendre, c'est-à-dire que en fait, c'est à la fois un peu humiliant, c'est-à-dire que la solution, elle n'est pas venue d'elle-même. Elle est vraiment venue de l'extérieur, de victimes qui se sont organisées, d'associations, de beaucoup de journalistes aussi qui ont protesté contre ce qui se passait. Donc je pense que là, le pape François, il n'a absolument pas le choix, sinon c'est catastrophique.
Il n'a pas le choix, mais en même temps, il a envoyé des signaux contradictoires sur la question de la pédocriminalité dans l'Église, tantôt en prenant la tolérance zéro, tantôt se montrant plus ambigu. Vous parliez tout à l'heure de la création d'un tribunal pour juger effectivement les évêques qui ont couvert des affaires de pédophilie. Finalement, il n'a pas eu lieu. Donc, il y a quand même des hésitations, voire carrément des contre-pieds.
Oui, bah après, c'est compliqué, hein, parce que le pape François, il n'est pas tout puissant. C'est une église de
c'est là où
plus
je voulais
d'un
en venir.
Milliard de fidèles. Et puis, le fait d'avoir un tribunal et en permanence des juges qui auraient au rang d'évêque au niveau de Rome, moi, je pense aussi que c'est pas forcément une bonne idée. C'est-à-dire que la centralisation excessive de l'Église catholique, c'est pas forcément une bonne idée. Ce qu'il faut, c'est arriver à avoir, un peu comme dans le monde orthodoxe d'ailleurs, hein, des patriarcats ou des ensembles régionaux qui aient un niveau de responsabilité plus important. Parce qu'on va jamais arriver à tout centraliser à Rome. Le Vatican, c'est 4000 personnes, c'est personne. Donc comment voulez-vous que 4000 personnes jugent ce qui se passe sur 1,2 milliard de fidèles? C'est impossible. Donc il vaut mieux, à mon avis, arriver à responsabiliser les gens localement.
Alors, vous parliez de batailles culturelles. Il y en a une qu'il faut livrer, c'est celle de la culture du secret. Le sommet a été aussi marqué par les révélations du cardinal Marx, qui est le président de la conférence épiscopale allemande, sur la destruction d'archives. Je le cite, les droits des victimes ont été ainsi foulés aux pieds et laissés à l'arbitrage de personnes individuelles. Il y a eu effectivement des destructions d'archives. Il a également remis en cause le secret pontifical, concernant précisément les procédures d'abus sur mineurs. Est-ce qu'il y a là des évolutions à attendre sur ce point-là, la culture du silence, de l'omerta, est-ce qu'elle peut reculer? Est-ce que vous sentez qu'on a là quand même quelque chose qui fait qu'on a un environnement, des conditions propices à ce recul?
Oui, je pense, enfin j'espère, parce que d'abord on est dans une société aujourd'hui qui demande de plus en plus de transparence, hein. C'est pareil d'ailleurs pour toutes les professions, hein, les médecins, les psychiatres, etc. Et il me semble qu'on est en train d'évoluer, mais c'est vrai que c'est le cœur du problème. Pour ce qui s'est passé pour le père Prénat à Lyon, moi on m'avait dit qu'il y avait un gros dossier, en fait il n'y avait plus qu'une feuille. Donc qu'est-ce qui s'est passé des archives du père Prénat? Monseigneur Pontier, donc, qui est le patron des évêques de France, a reconnu très bien il y a 15 jours dans un article dans le JDD qu'effectivement il y avait un problème d'archives dans l'Église catholique. Parfois d'ailleurs c'est simplement un manque de rigueur, c'est-à-dire qu'on balance les archives, on n'y fait pas attention.
Oui, parfois il y a une intention de cacher les informations.
Parfois il y a une intention de cacher les intentions et les problèmes. Et même lui, ce qu'il expliquait, c'est que jusqu'à présent, quand il était arrivé dans un nouveau diocèse comme évêque, il regardait jamais les archives des prêtres en se disant je préfère découvrir par moi-même. Mais c'est super dangereux cette histoire. Donc il y a effectivement un vrai problème des archives qui soient à la fois qui ont été détruites à mon avis pour un certain nombre et puis auxquelles on n'a pas porté soin. Donc il n'y a pas de mémoire effectivement des problèmes des prêtres.
Et ça, on a pris la mesure de ce problème au Vatican? Est-ce qu'on va mettre en place un nouveau dispositif d'archivage, de nouveaux, j'allais dire, process pour justement éviter que l'on ignore ces archives qui pourtant existent?
Alors encore une fois, je pense que tout ne peut pas venir du Vatican. Au Vatican, là, ça y est, commence à lever le secret sur les archives de Pie XII, enfin.
Oui, donc, ça a été annoncé
c'est
hier.
C'est-à-dire que le Vatican est lui-même quand même complètement dans cette culture du secret qui... parce qu'en plus on va rien découvrir de scooping dans cette histoire des archives de Pie XII, et on sait déjà à peu près tout ce qui s'est passé, donc c'est quasiment ridicule. Donc
il y a alors le Vatican. Alors pourquoi ça a été si long alors?
Bah oui, c'est ça. Non mais c'est le problème de cette espèce de culture du secret qu'il faut pas surtout pas donner les choses, etc. Et ça, il y a c'est peut-être parce que il y a quelque chose qui est très implanté dans le monde catholique, c'est la peur du scandale. C'est, par exemple, quand vous choisissez un évêque, c'est le nonce avec les gens du Vatican qui choisissent les évêques dans tous les pays. Et ben, quelque chose qui doit s'assurer, c'est que cet évêque n'a jamais causé de scandale par ses dires, au monde catholique. Donc, en fait, c'est la peur du scandale et pendant très longtemps, cette peur du scandale, donc de dire à l'extérieur ce qui se passait de pas forcément très bien dans l'Église catholique, était plus forte que le désir de vérité. Pourtant, la vérité dans la religion catholique, c'est important aussi. Mais c'est ça qui a fait cette espèce de culture du secret dont on a du mal à sortir. Alors après, on a parlé du secret de la confession, mais ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui est très précis, la confession. C'est absolument pas quelque chose qu'on peut étendre à l'ensemble des relations d'un prêtre avec ses fidèles.
Encore un tout dernier mot, et puis ensuite, je vous passe la parole à Malaché. Je vous soumets, vous aussi, à la question Isabelle de Golemin sur l'affaire Barbarin. Je disais tout à l'heure, en début d'émission, que vous aviez prévenu, informé le cardinal de Lyon, Barbarin, concernant ces actes pédocriminels du père Prélat, que vous connaissiez pour avoir fait des camps scouts, tout simplement.
Pour être, voilà. Oui, j'étais une des six scouts.
Il se trouve que l'épilogue judiciaire est pour bientôt, puisque le tribunal correctionnel de Lyon doit rendre sa décision concernant le cardinal et cinq anciens membres du diocèse dans les jours qui viennent, cette semaine, je crois que c'est jeudi.
Jeudi, ouais.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en attendre?
Enfin, moi, je suis pas juriste. Hein. Les juristes, ce serait plutôt un non-lieu. En fait, c'est compliqué parce que là, c'est pas le procès du père Prénat. Et celui-là, j'espère qu'il aura lieu, qui serait vraiment le procès de tout ce qui a permis la couverture de ce prêtre des années 70 aux années 2010-2015. Là, c'est le procès d'une institution, Barbarin, qui j'avais prévenu, mais en réalité, et c'est ce qu'il m'a dit, il était au courant. Mais au courant de quoi? C'est ça le problème. Hein. Mmh. Il était au courant qu'il y avait un problème avec ce prêtre. Il n'a pas cherché à en savoir plus. Quand il est arrivé dans le diocèse. A priori, rien ne s'est passé avec le père Prénat tant qu'il a été responsable du diocèse. C'est-à-dire que ce sont des faits qui remontent à bien avant. Donc, c'est plutôt de la mauvaise gestion, de la mauvaise administration, pour ne pas dire même de la désastreuse administration, que d'une couverture qui relève du pénal. Mais en réalité, on va voir ce que va dire. Ce qui va être intéressant, c'est de voir parce qu'il y a à la fois le jugement et puis il y aura le commentaire de la juge. On va voir comment elle, le regard qu'elle va porter sur cette gestion, effectivement désastreuse s'agissant du père Prénat, puisqu'on l'a laissé, etc., sans du tout se préoccuper de ce qui se passait pendant 20 ans.
Ah, Malachet, je le disais, donc vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes par ailleurs experte près de la Cour d'appel de Paris. Le pape, lors du sommet, il a dénoncé un mal universel et transversal qui existe presque partout. Il a donc essayé, il a replacé au fond la pédophilie dans un contexte sociétal plus large. Et d'une certaine manière, il n'a pas tort, évidemment, que la pédocriminalité ne concerne pas seulement l'Église. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique précisément dans le phénomène de pédophilie en contexte ecclésial, ou est-ce que finalement c'est parfaitement comparable à ce qui peut se passer ailleurs?
C'est une question qui me paraît très très difficile, parce que il faudra peut-être faire des études spécifiques effectivement après donc les affaires qui sont un peu portées à la connaissance maintenant, enfin dans toutes les institutions en lien justement avec la pédophilie à l'Église ou les violences sexuelles à l'Église. Mais c'est vrai que avec l'expérience que j'ai avec des enfants donc victimes d'agression sexuelle, je dirais que je n'ai pas eu beaucoup de dossiers qui concernent des enfants qui ont été abusés par des prêtres. Et j'en ai eu un ou deux, mais en même temps pas seulement du côté de l'Église catholique, mais je me souviendrai toujours par exemple d'un dossier où une victime qui était adulte, qui a osé quand même dénoncer un homme religieux, donc je ne peux pas vous dire de quelle confession, juste pour préserver le secret professionnel, et en fait, l'affaire n'a jamais pu aboutir parce que malgré le fait qu'elle a quand même été encouragée à déposer plainte, ou aller devant un magistrat, mais finalement il y a eu une telle pression à la fois du côté de l'Église, de l'institution donc religieuse, et aussi du côté de la famille. Qui a fait en sorte que, alors que l'affaire était arrivée quand même en instruction, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même, il y a eu des éléments suffisamment recevables qui ont donné lieu à une instruction. Et là, effectivement, à ce moment-là, elle s'est rétractée et ça a arrêté. Donc peut-être c'est pour cette raison-là que c'est très très difficile de dire est-ce que c'est plus spécifique, en matière, par exemple, de l'impact du trauma sur la victime quand donc la victime elle subit des faits d'abus sexuels au sein d'une église que quand ça se produit par exemple au sein de la famille ou dans d'autres institutions puisque effectivement.
Mais vous parliez par exemple de la question du secret. Le secret, il est au cœur d'une certaine manière de la relation entre l'enfant et le prêtre. Alors on le voit, vous parliez à l'instant, Isabelle de Golemin, de ce moment de la confession. Il est là, à ce moment-là, dans cet espace-temps-là, le secret est évidemment là. Il y a un rapport très direct, voire quasi exclusif entre le prélat et l'enfant. Est-ce que c'est un contexte qui rend plus propice l'acte pédocriminel?
La question du secret, on peut la retrouver aussi au sein de la famille. Il n'y a pas que à l'Église qu'on va la retrouver. Mais ça va être plus la question du silence. Et en fait, voilà, c'est la question du silence qui est très très importante, parce que effectivement, il y a non seulement des choses qu'on peut pas dire, mais en même temps qu'on n'est pas en position, si vous voulez, où notre parole peut avoir un poids ou peut être entendu. Il faut savoir quand même qu'un enfant qui dénonce des faits subis de la part d'un adulte ne le fait jamais de façon spontanée. Il le fait pratiquement toujours suite à un signalement. Ou lorsqu'il y a quelque chose qui se passe et on va remarquer, observer une modification au niveau de son comportement et qui va donc pousser l'adulte à lui poser des questions. Mais effectivement, quand ça se produit au sein d'une église, je dirais que la situation est encore beaucoup plus complexe pour l'enfant, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai qu'on a l'idée un peu qu'un enfant qui est abusé sexuellement, il subit cet abus de façon, directe et immédiate. C'est-à-dire, dès le premier contact avec l'abuseur, l'enfant est soumis à des attouchements sexuels, ce qui n'est pas le cas. En fait, c'est quelque chose qui se produit de façon très, très progressive. Ce qui est très important, c'est de mettre l'enfant en confiance. Et il y a comme un rapport de séduction qui va s'instaurer entre l'enfant et entre l'adulte, l'abuseur et l'enfant. Donc effectivement, quand on présente un enfant, une personne, un adulte, qui est déjà un adulte, donc pour lui, c'est quelqu'un qui a quand même, qui a une prestance, qui a une autorité d'emblée, mais en plus qu'on lui présente cette personne-là comme étant une figure d'autorité idéalisée. C'est-à-dire que c'est quand même, c'est un prêtre, hein. C'est quand même pas juste une personne, c'est plus qu'une personne. Donc effectivement, l'enfant, il est encore beaucoup plus impressionné quand il va subir, par exemple, des faits. D'abord, dans un premier temps, un enfant, il va se poser des questions pour essayer de comprendre ce qui lui arrive. Et dans la majorité des cas, en fait, les abuseurs, ils vont essayer de faire entendre à l'enfant le fait que ce qu'il est en train de subir est pour son bien. C'est-à-dire qu'on lui explique que c'est une façon de lui faire du bien. Et donc, du coup, en fait, la question qui se pose, ça vient d'où, ce qui se passe là? Est-ce que c'est moi qui le demande? Est-ce que c'est moi qui le veux? Ou est-ce qu'on me l'impose? Et donc, plus l'enfant est jeune, plus difficile pour lui, ça va être de se dégager de ce lien, parce qu'il va y avoir tout le temps des liens comme ça de dette, de loyauté, qui vont être criés, et qui vont donc empêcher l'enfant justement d'aller dénoncer ou de faire part de ce qu'il va subir.
Isabelle de Colmont, vous voulez réagir ?
Oui, moi je suis bien d'accord, parce que j'ai interrogé pas mal pour mon bouquin de victimes du père Prénat. Alors, j'ai quand même une question qui, de plus en plus dans ma tête, c'est le rapport entre pouvoir et sacré. Et là, je pense qu'il y aurait quelque chose à travailler pour l'ensemble des religions, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que, en fait, l'abus sexuel, c'est un abus de pouvoir. Et là, il y a effectivement une autorité sacrée. Et en plus, dans l'Église catholique, on l'appelle le Père.
Oui.
Donc, en tout cas, à Lyon, c'est quasi de l'inceste. Et c'est pour ça que les parents ont tant protégé. C'est-à-dire que c'est le Père.
Oui.
Mais c'est vrai que cette relation entre sacré et abus de pouvoir, moi, c'est quelque chose sur lequel je m'interroge beaucoup, en fait, en ce moment.
Oui.
Oui, alors donc c'est une question extrêmement intéressante, et d'autant plus que justement, il y a des situations où effectivement, l'enfant, il va accepter, j'ai déjà eu un cas de figure comme ça, où une petite fille a accepté de subir des attouchements sexuels de la part d'un homme religieux, je dirais pas exactement, voilà. Et en fait, jusqu'à arriver à un certain âge, parce que c'est ça qui est la question du sacré. C'est-à-dire qu'elle a même, elle a intégré le fait que effectivement, ce qui se passait avec cet homme n'était pas tout à fait normal, mais elle ne pouvait pas le dénoncer parce que elle, dans sa culture religieuse, elle devait obéissance à cet homme. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas dire non. Elle ne peut pas refuser de ce qu'il lui demande de faire.
Car c'est un homme de
arriver,
Dieu.
Voilà, c'est ça qui est très intéressant. Arriver à un âge où elle a compris, elle a intégré quelque chose dans son éducation religieuse, à partir de cet âge-là, on ne doit plus avoir une relation charnelle, entre guillemets, c'est à ce moment-là qu'elle va mettre fin à ces faits, qu'elle va même aller justement raconter à sa mère. Bien sûr, elle va refuser d'aller le voir, etc. Et c'est là qu'on va apprendre ce qui s'est passé. Et en fait, c'était sa propre limite. Donc c'est la question du sacré est une question très intéressante à cet égard, parce que ce qui était sacré, c'était en lien avec un développement à un stade précis où effectivement là, si elle pouvait être touchée, c'est comme si on allait transgresser un peu ce sacré. Et alors, je ne sais pas si je réponds à votre... Et je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à l'inceste, hein, parce qu'effectivement, c'est très incestueux, comme vous dites, c'est le père. Hein, et en même temps, c'est aussi c'est lui qui représente Dieu. Il a quand même une autorité aussi divine. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y a quand même eu une réticence au niveau de la culture, et même au niveau de la loi, à reconnaître l'inceste tel qu'il est, c'est-à-dire à le nommer dans les textes juridique. C'est quelque chose qui a été nommé très très récemment. Et encore une fois, si vous voulez, si l'inceste se produit par exemple à un âge où l'enfant a été trop jeune mais qu'il n'y a jamais eu de dénonciation et que l'enfant continue à entretenir des rapports avec le parent au-delà de sa majorité sexuelle, bah, si l'enfant il décide de porter plainte contre son père, on peut argumenter par le fait que bah, oui, mais elle était majeure. Et elle a accepté d'avoir des rapports sexuels avec son père. Et à ce moment-là, si vous voulez, l'inceste n'est pas incriminé. C'est-à-dire l'inceste est incriminé à partir du moment où ça rentre dans à peu près la définition de ce qu'on peut retrouver dans le texte de la loi concernant donc les agressions sexuelles, la violence sexuelle, c'est-à-dire tout acte effectivement d'attouchement, d'agression ou de pénétration qui se produit dans un contexte de contrainte, donc de violence, et en même temps et par qui est donc qui est entre guillemets qui est commis par une personne ayant autorité ou donc ou par un ascendant. Donc ce sont des facteurs aggravants.
Je voudrais qu'on parle de la question de l'homosexualité. Alors, évidemment, on dit tout de suite que du point de vue du droit, la pédocriminalité et l'homosexualité, ça n'a absolument rien à voir. Le premier étant pénalement répréhensible, alors que le second, pas du tout, évidemment, même si malheureusement dans certains pays, ça reste pénalisé. Mais je voudrais voir comment les deux s'articulent en milieu ecclésial. Il se trouve qu'il y a certaines études qui montrent que la majorité des agressions par des prêtres concernent des garçons et des garçons adolescents. Il y a même certaines sources que... du Vatican, proche du Vatican en tout cas, qui pense que c'est tellement important comme proportion que c'est peut-être l'une des raisons qui explique que le Vatican tarde autant à réagir. Et on voit qu'évidemment, Isabelle de Golemin, la question de l'homosexualité, elle reste évidemment un énorme tabou dans l'Église. D'ailleurs, elle avait été officiellement totalement évacuée de la communication autour du dernier sommet dont on a parlé. D'abord, est-ce que vous pensez, Isabelle de Golemin, on va commencer par vous, que le tabou de l'homosexualité explique en partie cette difficulté à mettre les choses à plat sur la pédocriminalité ?
Moi, je trouve que c'est vraiment une question compliquée parce que...
C'est pour ça que je vous la pose.
Ouais, on jette l'opprobre quand même sur beaucoup de gens. L'homosexualité, elle existe dans l'Église, pardon. Moi, j'ai travaillé 4 ans au Vatican, donc effectivement, au Vatican, c'est très, très majoritaire. Hein. Beaucoup de gens, sans doute... par souhait de protéger leur sexualité, de prêtres sont des homosexuels, pas forcément tous pratiquants comme on dit. Alors ça peut-être expliquer c'est un peu la thèse de monsieur Martel hein, dans son livre qui Sodoma, s'appelle Sodoma. Ça peut-être expliquer aussi la culture de secret, c'est-à-dire que ce sont des gens qui effectivement sont tellement clivés dans leur tête parce qu'ils font le contraire de ce qu'ils disent, c'est ça le problème de fond. Après ils peuvent faire ce qu'ils veulent, le problème c'est qu'ils disent l'inverse. Que effectivement cette culture du secret peut ensuite par capillarité aller partout. Alors moi je dirais peut-être pas l'homosexualité mais la place de la femme plutôt. C'est-à-dire mais encore une fois moi j'en sais rien, il faudrait vraiment des recherches anthropologiques un peu profondes là-dessus, mais le problème sans doute pour ces séminaristes et ces prêtres, c'est qu'on leur a présenté la femme comme le grand danger. Ça, c'est le problème de l'Église catholique, quand même, aujourd'hui. Tellement danger, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de femmes au Vatican. Moi, comme journaliste, j'ai jamais interrogé une femme au Vatican, donc c'est quand même quelque chose. Et, alors, il commence à y en avoir quelques-unes. Et il n'y a pas de femmes dans les places d'autorité. Donc, la femme, elle est bannie, on est dans un univers d'hommes. Et peut-être que ça peut expliquer effectivement cette pédophilie, cette pédocriminalité essentiellement masculine et notamment pour les adolescents. Mais peut-être qu'il ne faudrait pas faire le lien direct. C'est ça qui est compliqué, je trouve. C'est pas parce qu'on est homosexuel. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais au Vatican, il y avait Tony Anatrella, hein, le père Tony Anatrella. Il a été le principal promoteur d'une directive du pape Benoît XVI qui interdisait au séminaire de recruter des homosexuels en disant « vous faites attention ». Et ce père Anatrella, moi je me souviens que j'allais l'interviewer, il était mais homophobe, mais comme c'est invraisemblable. Moi, je me souviens qu'après, je marchais pendant une heure tellement il m'avait dit des horreurs sur les homosexuels. On a appris plus tard que lui-même était homosexuel et qu'il était coupable d'abus de pouvoir sexuel. Donc, effectivement, cette personne-là est complètement clivée à l'intérieur de lui-même et c'est effrayant. Donc, voilà, c'est peut-être ça. Il y a peut-être quelque chose là qui est compliqué
à expliquer. C'est très délicat, mais effectivement, vous le dites, au fond, la condamnation de cette orientation sexuelle, c'est l'un des messages structurants de son discours moral. Donc, d'une certaine manière, lorsqu'on est homosexuel, on est transgressif. Et lorsqu'on est pédocriminel, on l'est aussi, du point de vue de l'Église, j'entends. Si l'on regarde peut-être du côté de la psychologue clinicienne que vous êtes à Malachais, j'aimerais qu'on regarde s'il peut exister chez les abuseurs, là on va sortir du contexte ecclésial, mais chez les abuseurs, une forme de confusion sur le caractère interdit, transgressif, entre pédocriminalité et homosexualité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver ?
Moi, je trouve qu'il peut y avoir un lien, et d'ailleurs, même, on peut même considérer que l'homosexualité, dans ce cas de figure, est la conséquence de la pédocriminalité. Et ce qui arrive assez souvent, dans pratiquement tous les cas que j'ai été amenée à rencontrer, que ce soit dans un contexte de prise en charge en milieu carcéral ou dans le contexte de mon travail d'expert ou de mon travail psychanalytique, il y a vraiment un lien très très important entre le fait l'orientation sexuelle que l'enfant qui a été abusé sexuellement quand c'est un garçon va prendre. Donc alors effectivement il y a à la fois un côté très paradoxal et vous avez évoqué le clivage qui est un terme très très intéressant justement parce que c'est ce qui entre guillemets spécifie un peu le fonctionnement de l'abuseur. Hein, c'est-à-dire que on peut imaginer par exemple un enfant qui a été abusé quand il était jeune, très très jeune, par un adulte et qui ne comprend pas ce qui lui arrive. À ce moment-là, en fait, il y a ce qu'on peut appeler une sorte de le moi de l'enfant qui est quand même assez fragile, il est en cours de constitution. Il va à un moment donné devoir se dissocier, hein, dans le sens de se cliver. Pour pouvoir préserver un peu l'intégrité, pour ne pas sombrer dans la folie. Hein, on est en contact avec quelque chose, avec une situation qui n'est pas intelligible, qui va produire des sensations à la fois dans le corps, de douleur, etc. Bon, tout dépend.
Il a besoin de créer ce clivage pour, d'une certaine manière, justifier son acte.
Non, pas justifier. C'est-à-dire que
l'enfant. Se l'auto-justifier, j'entends.
Non, l'enfant déjà qui subit, mais on va commencer par le début. L'enfant qui va subir ça, il va se mettre en place un système de clivage qui va lui permettre justement de pouvoir être à la fois une partie du moi elle va subir et l'autre partie du moi se détache. Ça arrive même dans le cas parfois des viols, hein, des victimes qui nous disent bon donc il était en train de me violer, moi j'étais ailleurs, j'étais en train de penser à mes vacances que j'avais passées pour que ce soit tolérable, hein, dans le sens où voilà parce que ce qui compte c'est l'intégrité en fait du moi. Et donc après ce clivage là en fait il va rester toujours là, hein, mais de façon inconsciente. Et donc il va y avoir dans la construction de la personnalité à la fois une partie du moi qui va être très ancré un peu dans cette expérience, au point d'aller dans le sens de vouloir reproduire l'expérience, c'est-à-dire répéter la situation, mais là de façon inversée. C'est-à-dire ce n'est plus moi qui subis, mais c'est moi qui fais subir. Et en même temps, c'est aussi une façon d'essayer de comprendre, de donner un sens à ce qui s'est passé. Parce qu'on a envie de comprendre pour quelle raison il m'a fait ça. Donc il doit y avoir une raison. D'autre part, c'est aussi une façon d'inverser la situation. C'est-à-dire, c'est moi qui suis actif. Car parfois, l'aspect le plus douloureux dans cette situation pour l'enfant, c'est le fait de subir. C'est cette situation de soumission absolue. Quoi.
Mais en tout cas, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'on dit souvent que les victimes d'actes pédophiles ont une probabilité plus grande de devenir eux-mêmes des criminels. Évidemment, c'est pas du tout...
Des pédophiles...
Mais les études montrent que c'est une probabilité qui est là.
Oui, elle est là.
Oui, il faut faire Isabelle attention de Golma, avec vous ça, parce que moi, donc, pour avoir parlé beaucoup avec les victimes du père
oui.
Prénat,
oui.
où il y a effectivement un certain nombre qui sont aujourd'hui homosexuels, mais d'autres qui ne le sont pas du tout. Et c'est vraiment la double peine pour eux, parce que en fait, une des problématiques, c'est que quand eux, ils ont eu le courage de sortir de leur silence et de témoigner, comme homme, père de famille, etc., alors qu'ils savaient très bien qu'on allait dire qu'un certain nombre de gens allaient dire en eux-mêmes, oh là là, s'il a été victime
c'est
de
pédophilie, le risque est plus grand.
Le risque est plus grand. Et il y en a même un, pour cette raison-là, on lui a ôté la garde de sa fille parce qu'il a divorcé et que sa femme a dit attention, attention, il a été abusé petit, donc il ne peut pas garder les enfants. Donc c'est extrêmement dur.
C'est la double peine.
Faire attention. Après, je pense qu'on améliore les choses en parlant et que eux, en brisant le silence, je pense qu'ils ont fait un bien fou à plein de gens.
Oui, j'ai envie juste de rebondir sur cette question. Bien sûr, ça ne veut pas dire automatiquement qu'on tous, enfin, si on a été abusé sexuellement, on devient des violeurs ou des pédophiles, bien sûr. Mais en même temps, c'est quand même quelque chose qui a été quand même repéré. D'ailleurs, même au 19e siècle, des travaux, le premier qui a parlé du syndrome d'enfant battu a justement retrouvé dans, chez les parents qui étaient abuseurs, des expériences d'abus qu'ils avaient eux-mêmes subies. Mais en même temps, ce qui était intéressant, je crois que c'est pas tant le fait que l'abus a été subi, c'est le fait que ça n'a jamais été porté à la connaissance d'un adulte, que ça n'a jamais, et parfois même l'enfant quand il y arrive, on lui dit de se taire. Et donc on lui dit de se taire. Et donc du coup, en fait, il se retrouve dans une situation où ce qui a été interdit devient une possibilité, c'est-à-dire la transgression, elle est cautionnée par la famille, par l'entourage, et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il peut y avoir une répétition. Mais effectivement, il y a quand même une évolution qui va être tout à fait différente en fonction de l'entourage, des expériences, de la structure, de ce qu'on peut appeler du moi, de l'âge de l'enfant, parce que effectivement, plus l'enfant est jeune, et plus il va y avoir la probabilité qu'il cherche un peu à répéter, quoi.
À Malachais, je parlais tout à l'heure de spécificité, il y a quand même une spécificité au contexte ecclésial, c'est la question du devoir de célibat.
Oui.
Est-ce que, une fois encore, je m'adresse à la psychologue que vous êtes, à la clinicienne que vous y êtes, est-ce qu'on peut établir un lien quelconque entre le devoir de célibat et le risque de pédocriminalité?
Oui. Oui, tout à fait.
C'est un oui franc.
C'est un oui franc. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est aussi Freud qui le dit. Parce que justement, c'est là où il y a le plus d'interdits, c'est là où il y a le plus de transgressions, justement. C'est-à-dire que, effectivement, il y a cette sexualité qui fait partie de notre constitution. Enfin, elle demande à être exprimée, à s'exprimer. Et donc, le seul moyen pour pouvoir réguler la sexualité, son passer à l'acte entre guillemets, mais ça peut pas dans le sens. Là, on parle de l'acte criminel. C'est aussi, on a que deux possibilités, ou bien ce qu'on peut appeler le refoulement, ou bien la sublimation. Donc si, effectivement, mais on ne peut pas trop refouler, c'est-à-dire si vous refoulez trop, en fait, ça produit l'effet inverse. Et donc, effectivement, et d'un autre côté aussi, c'est la définition, la qualification de ce qui va être considéré comme une faute. C'est une faute d'être tenté par une femme, d'avoir des commerces sexuels avec la femme. Enfin, dans le sens un peu catholique. Hein. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image un peu le nom de la rose d'Umberto Eco. C'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, ça montre justement dans quel contexte ça se passe. Mais ce qui était intéressant, si vous voulez, c'est que donc finalement, c'est beaucoup plus facile d'aller vers un objet qui n'est pas considéré comme un objet, entre guillemets, de tentation. C'est-à-dire que l'enfant est un être pur, donc c'est pas un être sexuel. Mais on va, quelque part, l'érotiser. Ça deviendra presque un fétiche, si vous voulez, pour le prêtre. Mm-hmm. Et donc, le sentiment, peut-être, de culpabilité va être moindre, parce que on n'a pas enfreint cette règle principale. Voilà.
Isabelle de Gomain.
Oui, à mon avis, ça dépend comment on vit le célibat. Moi, à titre personnel, je trouve qu'il ne faudrait pas que ça soit une obligation. Il y a des gens qui vivent le célibat bien. Nous, on a publié il y a une semaine un témoignage super beau d'un prêtre qui se dit homosexuel, mais qui n'a jamais eu de relation sexuelle, mais qui a travailler cette homosexualité, etc. Et qui, du coup, en fait presque une force aujourd'hui en disant qu'il est sans doute plus proche des gens un peu cassés.
Qu'il l'assume,
etc.
sans l'assouvir, mais qu'il l'assume.
Donc, je pense qu'effectivement, tout dépend, et c'est là où il y a un travail de discernement à faire très important pour les candidats à la prêtrise aujourd'hui, puisqu'il faut qu'ils soient célibataires. Et là où je vous rejoins, c'est le problème de l'enfant. Moi, dans mon enquête, ce que j'ai vu, c'est qu'à l'époque où le père Prénat a commencé, donc dans les années 80, au début, c'était Mgr de Courtrai, qui est un grand archevêque de Lyon, hein, qui a géré ce cas et qui l'a très, très mal géré de manière criminelle, en fait. On voit ça aujourd'hui. À l'époque, l'évêque de Lyon préférait presque que ses prêtres aient des relations pédophiles plutôt que hétérosexuels. C'est-à-dire que la catastrophe, c'était un prêtre qui disait « Moi, j'aime les femmes et je m'en vais parce que j'aime les femmes. » Alors qu'un prêtre pédophile, c'était beaucoup moins grave. Parce qu'en fait, il était pédophile. À l'époque, en plus, on n'avait pas du tout tous les réflexes qu'on a aujourd'hui. Et on le laissait en se disant « Bon, on va peut-être un tout petit peu le sanctionner. » Mais c'était beaucoup moins une catastrophe qu'un prêtre qui arrive en disant « Moi, j'aime les femmes et je veux sortir parce que je suis avec telle femme. » Donc c'est là où, effectivement, c'est gravissime. Et c'est là où le problème de l'obligation de célibat, qui est il faut que le prêtre s'y conforme s'il veut avoir une carrière. Sinon, il renonce à sa carrière. Et il renonce à son pouvoir. Il se renonce à son autorité. Et là, effectivement, il y a un problème d'interdit et de choses qui est compliqué à sublimer.
On est avec vous, Isabelle de Golmin, et vous, Amal Hachet, dans cette semaine consacrée aux enfants sans danger. Aujourd'hui, violence sexuelle, l'Église au tribunal des hommes. On va prendre la direction de l'Afrique pour voir ce qu'il y a derrière les scandales d'agression sexuelle dans l'Église africaine. Et quel modèle d'enfance aussi, du coup, ça nous révèle dans ces sociétés africaines.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Le soir, il m'a programmé chez lui, en haut d'un chacham. C'est là-bas, pour la première fois, il a profité sur moi.
Et puis, c'est comme entre toi et ta copine.
Il disait, je vais te faire ça, je vais faire ça pour toi, je vais te faire entrer à l'école. C'était entre moi et Albert. Sans jamais, je ne pardonne pas. Je ne l'ai jamais pardonné. Il a gâché ma vie. Chaque fois, quand je suis à l'église, je prie Dieu pour que cette sale chose qui s'est passée entre nous, que Dieu me pardonne. Ce qu'il a fait, un frère ne doit pas faire ça. Un prêtre ne doit pas faire ça.
Voilà, témoignage d'un jeune Guinéen abusé par un prêtre, extrait d'un documentaire Pédophilie dans l'Église, Le poids du silence, qui avait été diffusé sur France 2 en mars 2017. On va retrouver Élodie Razi, qui est anthropologue, spécialiste de l'enfance, professeur à l'Université de Liège. Vous êtes intéressée, Élodie Razi, au statut de l'enfance dans les sociétés africaines et aux différents modèles d'enfance qu'on y trouve, et notamment au pays Soninké, une ethnie qu'on retrouve au Mali, en Mauritanie, au Sénégal. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de scandales d'agression sexuelle au sein de l'Église. On en a vu en Amérique, en Europe, on en a parlé. Peut-être moins en Afrique. En tout cas, les affaires sont moins connue et moins médiatisée. Évidemment, on se dit que l'Église africaine est aussi touchée par ce phénomène. Alors pourquoi ce silence quasi total et qu'est-ce que ça nous révèle de la place particulière de l'enfant dans les sociétés africaines et des marges de manœuvre dont dispose cet enfant pour prendre la parole, Élodie Razi?
Tout d'abord, je pense qu'il faut quand même replacer un petit peu les choses en contexte et donc dire que la question de ces abus au sein de l'Église catholique nécessite de replacer ça dans un paysage religieux plus large. Donc il y a évidemment toutes les pentecôtismes qui devraient être concernés par cette question-là, puisque dans ces nouvelles églises, qu'on appelle les nouvelles églises, les pasteurs sont souvent des figures toutes puissantes aussi. Et puis l'autre précision, c'est que l'Afrique, c'est un continent. Donc parler de l'enfant africain, même si par facilité on le fait parfois, c'est un peu abusif. Mais bon, pour revenir à votre question, je pense que la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que parler de pédophilie, c'est d'abord essayer de se mettre d'accord sur ce qu'on entend par enfant. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? En quoi est-ce que c'est différent d'un adulte? Et ça, c'est en cela que l'anthropologie et l'histoire nous aident vraiment à comprendre les choses, parce que la question finalement sous-jacente, c'est quand, comment et quand s'arrête l'enfance? Puisque pour parler de pédophilie, il faut parler de relations sexuelles entre un adulte et un enfant non consenti dans le droit. Donc ça, c'est un premier point qui me semble important. Et on voit très bien dans nos sociétés comment ces limites entre âge adulte et âge de l'enfance sont très fluctuantes. La majorité sexuelle, la majorité tout court, l'âge au mariage, tout ça c'est très fluctuant au fil des siècles dans nos sociétés. Et ça se définit aussi différemment dans les sociétés africaines. L'exemple type, c'est ce que nous appelons nous des mariages précoces contraints en Afrique, hein, de fillettes ou de jeunes filles. Donc voilà, la première question qu'il faut se poser pour aborder cette question de la pédophilie, c'est qu'est-ce que c'est un enfant finalement dans ce contexte-là.
Surtout qu'évidemment, l'enfance, c'est très général, mais qu'il y a différents âges et que peut-être la question évolue au fil du temps aussi. Alors on va commencer justement au début, Élodie Razi. Tout petit, vous expliquez que l'enfant dispose d'une forme de droit à la parole un peu particulier. On lui reconnaît un droit d'expression à partir de la naissance et jusqu'au sevrage. C'est lié à une conception que vous décrivez, j'allais dire, religieuse et même quasi mystique, un peu spécifique de cette petite enfance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce premier moment, Élodie Razi ?
Il y a vraiment plusieurs étapes, finalement. Il faut déjà scinder cette question des étapes de ce qu'on qualifierait d'enfance comme période. Et effectivement, dans de nombreuses sociétés africaines, mais pas seulement africaines, la petite enfance est vraiment une période pendant laquelle l'enfant, parce que, alors pour diverses raisons religieuses, effectivement, et ça se décline de diverses manières localement, le petit enfant est en lien avec un autre monde, celui d'où il vient, le monde des ancêtres, le monde des génies, il y a différentes variantes évidemment très complexes de tout ça. Et ça demande donc cette proximité avec un autre monde, une attention particulière de la part de personnes qui s'occupent de lui. Et donc cet enfant sera, ce petit enfant aura effectivement une... on écoutera, on sera attentif, évidemment il ne parle pas encore avant 2 ans, mais en tout cas on sera attentif à tous ces désirs, tous ces problèmes qui sont essentiels parce que précisément il a un lien avec un autre monde ou d'autres entités.
Et puis vient Élodie Razi le moment du sevrage où là, alors c'est pas qu'il a plus le droit à la parole, mais en tout cas elle est beaucoup plus retenue cette parole. Il y a un rapport aux adultes qui va placer cet enfant dans une position un peu d'observation, d'apprentissage, de discrétion et de retenue. Et ce rapport particulier à l'adulte va rendre cette prise de parole et éventuellement sur une agression sexuelle quasi impossible. Puisqu'au fond, l'adulte, de façon générale, il incarne l'autorité et qu'il est extrêmement difficile de la remettre en cause. Je vous ai bien compris, Élodie Razi, c'est ça?
Alors effectivement, donc en fait, après cette période de la petite enfance, l'enfant va être socialisé dans son groupe de pères. Et là, bon, il y aura encore une fois différents modèles qui pourront être mis en œuvre selon les sociétés et les époques. Mais l'idée, c'est que les enfants se socialisent entre eux, avec des enfants du même âge qu'eux et avec des aînés aussi. Et donc, ils vont intégrer quelque chose qui est fondamental dans la structuration des sociétés africaines, même si c'est en pleine évolution, transformation plus exactement, c'est la relation aîné-cadet. Et c'est effectivement le fait qu'on est toujours le cadet de quelqu'un, hein, jusqu'à sa mort de toute façon, mais de manière différente selon les interlocuteurs. Et l'enfant, effectivement, aura beaucoup de mal à se positionner en tant que détenteur d'une parole qui pourrait être écoutée, en tant que cadet face à des aînés, que ces aînés soient les aînés au sein de son groupe de parenté, que ce soit au sein d'un village, d'un quartier, des différentes autorités, jusqu'à évidemment des autorités religieuses.
Et donc c'est lorsqu'il atteint précisément à son tour le statut d'aîné, et puis vous allez nous dire comment est-ce qu'on l'atteint, que d'une certaine manière on retrouve un peu, l'enfant retrouve son droit à la parole, et d'ailleurs peut-être n'est-il plus à ce moment-là précisément un enfant, et que donc éventuellement il est possible de dénoncer des faits d'agression sexuelle, c'est bien ça?
Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que disons que c'est pas un processus linéaire et on n'atteint pas un statut d'aîné par rapport à tout le monde, par rapport à une figure d'autorité, au sein de la parenté ou au sein d'une institution religieuse, on n'obtient jamais ce droit d'aînesse, si vous voulez. Donc là, ça amène à parler du deuxième problème, entre guillemets, qui est celui de la figure d'autorité que représente le prêtre. C'est un aîné perpétuel, si j'ose dire. Et deux spécificités locales particulières qui vont entretenir cette soumission à l'autorité, c'est premièrement le fait qu'il y a une forte articulation entre le politique et le religieux en Afrique. Et la seconde articulation forte qu'il faut mentionner, c'est celle du politique et de ce que certains auteurs appellent le mystico-religieux. Et généralement, on préfère notamment à la sorcellerie. Et ça, la sorcellerie, ça va mobiliser des peurs bien particulières et très prégnantes. Dans certaines sociétés africaines, encore une fois, il y a une très grande diversité. Donc, vous voyez que cette figure d'autorité du prêtre, elle est feuilletée, en fait. Elle comprend plusieurs dimensions qui ne vont pas du tout être propices à l'expression de la parole, à la dénonciation de faits délictueux.
Compte tenu de ce que vous nous dites, Eledi Razi, on se demande finalement, et donc de ce statut particulier de l'enfance dans les sociétés africaines, même si je mets évidemment toute une série de guillemets, et de leur rapport aux adultes, et de leur rapport en particulier aux prêtres, on se dit que ça peut être compliqué, c'est un euphémisme, de mettre en place un dispositif d'alerte des agressions sexuelles. Est-ce qu'on peut vraiment espérer libérer la parole de ces enfants et de ces familles sur ces questions-là ?
Alors, je pense que oui, mais ça demande encore un autre questionnement sur la sexualité. Quelle est la place de la sexualité en général dans la société ? Et la sexualité, c'est pas quelque chose dont on parle publiquement en Afrique en général, si ce n'est de manière très codifiée dans certains contextes, dans certains types de relations, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais ça c'est extrêmement important de savoir que le rapport à la sexualité est aussi traversé par les questions de genre. De genre et de rapport aîné-cadet, comme je viens de le dire. Et parler d'une sexualité déviante, entre guillemets, par rapport à la norme locale, c'est encore plus difficile. Donc, je crois que de la même manière qu'ailleurs, il y a des ressorts qui sont les ressorts d'une sorte de mode de socialisation par la peur qui est à l'œuvre, et par la honte. Et cette parole, donc, des enfants, même devenus adultes, elle est compliquée, et encore plus pour les garçons, dans des sociétés où la masculinité et la virilité sont vraiment, centrales pour les hommes, hein, et où l'homosexualité, par exemple, n'est pas un comportement sexuel admis. Pour conclure sur cette question, comment faire pour mettre en œuvre un dispositif qui serait viable, si vous voulez, et qui aurait des effets, il faut réfléchir évidemment à la manière dont on peut ouvrir le débat sur la pédophilie. Et ça demande une évolution socio-historique de la perception de la pédophilie dans la société, c'est-à-dire comment, dans des sociétés africaines, on va peu à peu construire la pédophilie comme un problème social, et comment, comment qualifier à terme la pédophilie de crime.
Merci beaucoup Eledi Razi, je rappelle que vous êtes anthropologue et professeur à l'université de Liège. Peut-être une dernière réaction, on arrive presque au terme de cette émission. Isabelle de Golemin, c'est vrai que ces dernières années il y avait quasiment un déni sur l'existence du phénomène de pédophilie en Afrique. Est-ce que vous sentez que les choses sont en train de changer ? Est-ce que les évêques africains commencent à en parler, commencent à accepter son existence ?
En tout cas, ce qui est important, c'est que le pape avait effectivement invité tous les pays africains aussi à ce sommet, et surtout il a fait parler une religieuse nigériane, oui. Qui a été extrêmement forte et sans phare là-dessus. Ça ne peut venir que d'eux, parce qu'il y a toujours cette espèce de complexe néocolonial qu'on comprend, hein, parce que c'est quand même nous qui avons amené l'Église. Et elle a dit, c'est pas parce qu'on est en Afrique que la religion doit être une religion troisième zone, et là aussi l'Évangile doit d'abord être une parole qui libère et non une parole qui prisonne. Donc je trouve que c'était assez important.
Elle m'a lâché.
En fait, effectivement, on retrouve un peu le même problème ailleurs qu'en Afrique. Au Moyen-Orient, par exemple, et je vous invite à lire un très très bel ouvrage qui était aussi fait sous forme de reportage, qui a été écrit par un écrivain, une dame qui s'appelle donc Shirin Elfeki, et son livre c'est Le sexe et la citadelle.
Le sexe et la citadelle. Oui, on va retrouver les références.
Il est magnifique, mais je pense probablement il a dû être traduit.
On va regarder ça et on mettra les références sur la page de Culture Monde, ainsi que les références de vos ouvrages, le psychologue en contexte judiciaire, quels enjeux éthiques, mais aussi nouvelles figures de l'acte criminel. Vous concernant, vous, Isabelle de Golemin, c'était Au Seuil en 2016, Histoire d'un silence qui est l'affaire Barbara. Merci infiniment de nous avoir éclairés l'une et l'autre aujourd'hui. On poursuivra évidemment notre série consacrée Ces enfants sont en danger. Ça sera demain, mais pour l'heure, 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son Tour du Monde des Idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors vous nous avez présenté hier un essai paru aux États-Unis. Ses auteurs estiment que ce n'était pas une si bonne idée que de donner les clés des partis aux électeurs au détriment de leurs dirigeants, c'était ça?
Oui, et Yasha Munk, l'auteur du fameux essai Le peuple contre la démocratie, a lu ce livre et il en donne récemment une critique au magazine The New Yorker. Il accepte certaines des observations de ses auteurs, mais il diverge sur leurs conclusions. C'est vrai, reconnaît-il, l'affaiblissement des grands partis de gouvernement a permis permis à des personnalités aussi imprévisibles que Donald Trump de réussir son OPA sur le Parti républicain. Lorsque Trump annonça qu'il se lançait dans la course à l'investiture républicaine, rappelle Munch, les responsables du fameux site d'information The Huffington Post annoncèrent qu'ils refusaient de traiter cette candidature fantaisiste dans leur page politique. Trump n'aurait droit, annoncèrent-ils, qu'à la rubrique « Entertainment ». Nous ne mordons pas à l'hameçon, lisait-on sur le poste. Si vous êtes intéressé par ce que Donald Trump a à dire, eh bien vous le trouverez à côté de nos stories sur les Kardashians. Aujourd'hui, il est président des États-Unis. Nous ne sommes plus à l'époque où le parti décide, selon le titre d'un ouvrage fameux publié en 2008. En 2016, écrit Yascha Mounk, le parti républicain n'a pas décidé. Il a été conquis au cours d'une cruelle blitzkrieg, plus rapidement refaçonnée à l'image de son conquérant. Car la surprise, c'est que les élus républicains au Congrès aujourd'hui marchent droit. Ils ont trop peur de se faire battre aux prochaines primaires s'ils contestent le président élu. Ils sont échaudés par le précédent fameux de l'ancien gouverneur de Caroline du Sud, Mark Sanford. Comme l'écrit Munk, Sanford est devenu célèbre pour avoir disparu deux fois. Je vous explique. La première, c'était durant l'été 2009. Il avait filé incognito en Argentine, retrouver sa maîtresse. Alors son porte-parole expliqua à la presse, il fait de la randonnée dans les Appalaches pour se vider la tête. Il fut ensuite l'un des rares poids lourds républicains à s'opposer avec détermination à Donald Trump. Résultat, il a été battu en juin dernier aux primaires. Trump avait lancé contre lui un tweet vengeur « Il est mieux là-bas en Argentine ». L'électeur des primaires est devenu donc faiseur de roi, alors même qu'à peine un quart des électeurs américains ont voté aux dernières primaires et seulement 1 sur 8 avait choisi Donald Trump et Hillary Clinton.
Donc on ne reviendra pas, Brice, sur le système des primaires aux États-Unis.
Oui, il faut s'y faire. Les machines des partis autrefois toutes puissantes parce qu'elles décidaient des investitures et qu'elles géraient les budgets de campagne se sont dessaisies de ce pouvoir afin de renouer avec les électeurs. Et c'est ainsi que des personnalités inattendues sont parvenues au pouvoir. La plupart des députés du Labour à la Chambre des communes détestaient Jeremy Corbyn. Et bien pourtant, il est devenu le leader de leur parti. Au Canada, tout récemment, le businessman Doug Ford a été élu Premier ministre de l'Ontario en prenant la tête du parti progressiste conservateur dont la direction ne voulait pas de lui. Munk rappelle pourquoi tant de partis politiques se sont convertis dans le monde au système des primaires. À la convention de Chicago, en août 1968, le candidat du président Johnson, Herbert Humphrey, fut désigné candidat du Parti démocrate aux élections présidentielles contre Eugene McCarthy, le candidat de la gauche, soutenu dans la rue par des dizaines de milliers d'étudiants. Humphrey, le chouchou de la machine du parti, n'avait même pas daigné faire campagne dans les primaires des différents États. Or, ce qui était en jeu alors, ce n'était rien d'autre que la poursuite ou l'arrêt de la guerre du Vietnam. Humphrey voulait continuer, McCarthy l'arrêtait. Humphrey a été battu à la présidentielle par le candidat républicain Richard Nixon. Le Parti démocrate, sérieusement ébranlé alors, confia à deux personnalités, dont le futur candidat à la présidentielle George McGovern, le soin d'imaginer une réforme des procédures de désignation des candidats à tous les niveaux. Le principe qui guida cette commission fut « le contrôle populaire du parti est nécessaire à sa survie ». Et à partir de ce moment-là, les listes de candidats aux candidatures furent ouvertes. Elles comportèrent des quotas réservés aux minorités. Et la désignation des candidats fut organisée par des primaires dans lesquelles pouvaient voter et peuvent toujours voter tous les électeurs du parti et pas seulement ses seuls militants. On ne reviendra pas en arrière, prévient Munk. Le temps où des caciques négociaient entre eux leur liste de candidats à la main dans des salles de congrès enfumées à l'abri des regards, c'est loin derrière nous. Les auteurs de Responsible Parties estiment que les primaires sont responsables de la vague populiste. Ce système a donné trop de poids aux groupes d'influents radicaux, disent-ils. Peut-être, rétorque Munk, mais la vague populiste ne tient pas aux institutions politiques. Ce qui la provoque, ce sont l'émigration, l'insatisfaction économique et les conséquences sur l'emploi des technologies numériques, pas les institutions politiques.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve la grande table.